Réplique, le phénomène Trump, avec Laure Mandeville et André Caspi. Interrogé sur la triade nucléaire, lanceur, terre, air, mer, il n'a pas compris de quoi on lui parlait. Il s'est déclaré prêt à lancer des frappes chirurgicales contre les bases de l'État islamique avec des missiles Trident, montrant par là qu'il ignorait que le Trident est équipé d'ogives nucléaires 70 fois plus puissantes que la bombe larguée sur Nagasaki. Après s'être enthousiasmé pour les méthodes autoritaires de Vladimir Poutine, il est revenu sur l'article de la charte de l'OTAN stipulant que tout membre de l'alliance attaquée avait le soutien des autres membres. Il a prétendu que le dérèglement climatique était une invention des Chinois visant à nuire à la compétitivité des États-Unis. Et du sénateur américain John McCain, il a dit « John McCain est un héros de guerre parce qu'il a été capturé. J'aime les gens qui n'ont pas été capturés. » Ce lourd passif et d'innombrables tweets rageurs n'ont pas empêché Donald Trump d'être élu président de la première puissance mondiale. Cela mérite une explication. Je la demanderai à l'historien André Caspi, qui a consacré plusieurs ouvrages à l'histoire américaine, et à la journaliste Laure Mandeville, auteur de « Qui est vraiment Donald Trump ?». Et d'abord, une question personnelle. Vous attendiez-vous à cette victoire et comment l'avez-vous vécu, Laure Mandeville ?
Écoutez, oui, Alain Finkielkraut, oui, moi je m'attendais à cette victoire parce que depuis un an, j'ai sillonné les États-Unis. Quand j'ai vu effectivement que Donald Trump, malgré un certain nombre d'insultes répétées semaine après semaine, mois après mois, à partir du moment où il lance sa campagne en juin 2015, résiste et telle sorte de personnage insubmersible, malgré tous les pronostics de l'élite américaine et des médias, ne s'effondre pas face à ses 16 rivaux républicains, je me dis qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se cache derrière le phénomène Trump, que c'est pas possible que quelqu'un qui reste au sommet des sondages, mois après mois, malgré tous ces écarts de langage ou ces approximations ou erreurs que vous avez évoquées, qu'il y a autre chose. Et donc, c'est là que j'ai commencé à creuser à la fois ce personnage et la vague de colère absolument profonde qui se cachait derrière. J'ai compris qu'il y avait une sorte de rencontre entre un personnage totalement hors norme et par cela fascinant, un homme explosif, indomptable, et une vague de colère. Et je pense que c'est à cause de l'indomptabilité de Trump, de la force de sa personnalité, que le peuple a finalement décidé de le soutenir et de l'élire président.
Alors, vous y attendiez à cette victoire alors qu'elle a pris tous les grands médias américains, mais aussi européens, de court. Et la deuxième partie de ma question, c'était comment l'avez-vous vécu ? Est-ce qu'elle vous a effrayé ou est-ce qu'au contraire, vous vous êtes dit, bon ben comme ça, cette colère peut aller jusqu'au bout d'elle-même et c'est pas plus mal pour la démocratie américaine ?
Écoutez, en tout cas, moi je n'ai pas partagé le sentiment d'apocalypse qui est tombé sur la presse. C'est vrai que aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, la plupart des médias sont toujours en fait dans un brouillard d'indignation et d'hostilité absolue qui fait que pour eux, Trump n'est toujours pas légitime et que tout ce qu'on voit, toutes les explications qui sont données à la fois de son élection, mais aussi de cette première période de transition, de ce qui émerge, est fait sur le mode du fait que c'est ce qu'on dit en Amérique, un rogue president, c'est un président qui ne devrait pas être là où il est et qui ne peut qu'échouer. Moi, je suis pas dans cette approche. Peut-être parce que c'est mon caractère, j'essaie d'abord de comprendre les choses au lieu de les juger. Et j'estime que depuis le début, nous n'étions pas vraiment en mesure de juger. Et comme vous le savez, j'ai fait un livre sur Trump.
Et oui.
Donc pour essayer de comprendre mieux le personnage, je pense que c'est un personnage beaucoup plus complexe que ce qui a été présenté. Et donc je n'ai pas un sentiment de peur aussi grand. C'est vrai que je suis inquiète sur beaucoup de choses. Il y a dans la personnalité de Trump beaucoup d'imprévisibles. Il y a un ego gigantesque que je décris dans mon livre. Il y a une capacité à prendre tout le monde de court sur la scène internationale, une capacité de secouer le système. Mais je pense qu'il y a aussi, parce que ce personnage est totalement hors norme, parce qu'il n'a peur de rien, peut-être aussi une fenêtre d'opportunité dans un monde qui de toute façon nous fait peur et me fait peur. Je crois qu'il vous fait peur aussi d'une certaine manière, Alain Finkielkraut, vous l'avez dit souvent. Et je pense que après tout, la menace que représente l'islam radical pour les sociétés européennes et occidentales et pour le monde précède Donald Trump. Les tourments de la Russie et le danger de Poutine et de ce qu'il représente comme relativisme et donc de danger pour la démocratie précède aussi Trump. Trump arrive avec des questions absolument parfois stupéfiantes pour nous, mais aussi peut-être une capacité à secouer ce système.
André Gaspi.
Pour répondre tout d'abord à votre première question, je dirais que j'ai passé une grande partie de mon temps avant les élections à ne pas faire de pronostics. Pour la bonne raison que il m'a semblé que la campagne électorale, tout d'abord, était d'un niveau très médiocre et que l'on avait affaire à deux candidats qui, pour différentes raisons et sur différents problèmes, ne méritaient guère d'être président des États-Unis. Moi, ce qui m'a frappé chez Donald Trump, c'est que, au fond, c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis et surtout dans l'histoire du XXe siècle qu'un homme qui n'a aucune expérience politique accède à la présidence. Et au fond, c'est cela qui doit retenir notre attention, parce que cela veut dire ou bien qu'il n'en a pas les capacités, ou bien que les États-Unis sont capables précisément d'élire quelqu'un qui n'a pas fait ses premières armes, soit au Congrès, soit à la tête d'un État. C'est le cas de Donald Trump. Donc ça veut dire que finalement, l'élection de Donald Trump est tout à fait extraordinaire. Elle ne m'a pas surpris malgré tout, pour la bonne raison que si c'était Hillary Clinton qui avait été élue, j'avoue que j'aurais été tout aussi froid et glacial à l'égard de sa victoire. Donc je considère que l'un comme l'autre ne méritait guère d'accéder à cette fonction, et c'est peut-être ce qui me désole le plus pour cette grande puissance que sont les États-Unis.
Alors peut-être commençons justement par Hillary Clinton, parce que le succès de Trump vient aussi de l'échec de sa campagne. Mm-hmm. Alors justement, je vais vous demander l'un à l'autre, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher ? Elle a du métier, elle sait ce que c'est que la politique, elle a exercé les plus hautes fonctions sous l'administration Obama, elle a été la First Lady pendant 8 ans, sous la présidence Clinton, elle connaît la scène internationale, elle a vu l'Amérique tenter de rétablir des relations stables et normales avec la Russie, elle a vu l'échec de cette tentative, donc elle ne s'en laisse pas compter. Pourquoi pensez-vous que son élection eût été également catastrophique ? André Gaspi, et je vous poserai la même question à Normand Ville.
Je crois tout d'abord que le principal adversaire d'Hillary Clinton, c'est Hillary Clinton. C'est-à-dire qu'elle est aux affaires, comme vous l'avez rappelé, depuis déjà plus d'une vingtaine d'années. Ce qui veut donc dire que pour les Américains, c'est une personnalité connue, reconnue, et peut-être aussi parce qu'elle est connue et reconnue, elle suscite la méfiance, pour ne pas dire l'hostilité. Quand on réfléchit bien, les Américains n'ont pas voté pour Hillary Clinton, du moins ceux qui ont voté pour Donald Trump, et n'ont pas choisi Hillary Clinton précisément parce qu'elle représente la politique à l'ancienne. Elle a été, comme vous l'avez dit, la First Lady, mais quand elle était la First Lady, elle n'a pas connu que des succès. Elle a connu aussi l'échec en 1993 de cette volonté de réforme du système de santé. Elle a connu le scandale Monica Lewinsky. Donc ça veut dire qu'au fond, pour les Américains, c'est une vieille histoire. Et peut-être aussi y a-t-il, à l'égard d'Hillary Clinton, ce sentiment que les dynasties, c'est fini. Il y a eu des dynasties dans l'histoire des États-Unis. Il y en a eu une au 19e siècle, c'était les Adams. Il y en a eu au 20e siècle, c'est, par exemple, les Kennedy, c'est une dynastie. Par exemple, les Bush, c'est une dynastie. Alors, est-ce qu'il fallait encore une autre dynastie qui s'appelle Hillary Clinton? Ça, je crois que c'est déjà un premier point, sans compter, bien sûr, les défauts de son caractère, son manque de charisme sur lequel tout le monde a beaucoup jasé. Mais j'ajouterais un autre point, c'est d'un point de vue politique. C'est-à-dire que, en tant que démocrate, elle a fondé sa campagne essentiellement sur les minorités.
Voilà.
Minorités ethniques, minorités raciales et majorités des femmes, parce que les femmes constituent 53% du corps électoral. Ce qui veut donc dire qu'elle a raté sans doute un élément essentiel, c'est-à-dire le reste des Américains. Et c'est précisément le reste des Américains qui ont préféré Donald Trump, même si, au total, il y a plus de 2 millions de voix qui se sont portées sur Hillary Clinton, en plus de ceux, des voix qui ont choisi Donald Trump. Mais ça, ça tient au système électoral oui. américain sur lequel on pourrait en
oui,
effet beaucoup
on
parler.
Oui, on va évidemment en parler parce que c'est un système très paradoxal, pour nous autres Européens en tout cas. Mais avant d'en parler, avant d'en venir à ce système américain, Laure Mandeville,
Hillary Clinton,
le sens de son échec.
D'abord, la première chose, c'est que cette femme n'a jamais été aimée par les Américains. Quand vous vous promenez et que vous leur en parlez, ils n'ont jamais aimé Hillary depuis qu'elle est arrivée comme la First Lady, cette femme qui était tellement omniprésente, qui s'était emparée du projet santé. Ils ne l'aiment pas. Ils ne l'aiment pas. Ils ont toujours eu le sentiment qu'elle leur mentait, qu'il y avait une malhonnêteté, en fait. C'était d'ailleurs dans les sondages d'opinion pendant toute la campagne, le gros problème qu'elle suscitait, c'est qu'elle ne donnait pas confiance. Donc il y a cet élément profondément personnel. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de mal à connecter, qui a finalement peu de charisme, qui est très intelligente, comme vous l'avez dit, expérimentée, connaissant les dossiers, capable de répondre en 10 points sur n'importe quel sujet. Mais je crois qu'aussi les Américains n'ont jamais compris où Hillary Clinton voulait les emmener. C'est-à-dire quand il écoutait Trump voulait rendre sa grandeur à l'Amérique. Bernie Sanders, qui a été l'événement de la campagne démocrate contrairement à Hillary, voulait faire une révolution pour mettre fin à la corruption du système. Hillary ne disait rien sur tout ça. Et aussi, comme l'a très bien dit André Caspi, le problème d'Hillary, c'est qu'elle a fait une campagne sur les minorités. Mais là, on peut dire que ce n'est pas seulement l'échec d'Hillary, c'est l'échec du Parti démocrate. Parce que le Parti démocrate, depuis des années, et c'était le cas sous Obama, a considéré que la clé du succès, c'était d'empiler l'un sur l'autre des promesses vis-à-vis de différentes catégories. Donc c'était ce qu'ils appellent l'argument démographique. Et donc toutes ces conférences, c'était « je vais aider les gays, je vais aider les noirs, je vais aider les latinos, je vais aider les femmes, je vais aider les trans ». Et en fait, il n'y avait pas de projet national, de projet global, de projet américain. Et ce qui est très intéressant, c'est que Trump, c'est justement une rébellion contre ça. C'est-à-dire, c'est l'idée que, c'est une certaine manière, sortir du communautarisme. On a dit que Trump, c'était simplement un projet blanc. Moi, je pense que c'est faux, qu'il y a derrière son discours un projet plus large, qui est en gros, rendons leur force aux Américains. Défendons les Américains.
Un philosophe américain est allé dans le même sens récemment. C'est un article publié d'abord par le New York Times, puis par Le Monde, Mark Lilla, la gauche américaine prise au piège de la diversité, une gauche incapable en effet de s'adresser à la nation en tant que telle. Et effectivement, parlant aux minorités, avec chez Hillary Clinton, si vous voulez, cette espèce d'aggravation au moment où elle a dénoncé la moitié des électeurs de Trump comme des gens déplorables,
exactement,
c'est-à-dire minables, et elle les a traités d'homophobes, de racistes, de sexistes, d'islamophobes, you name it, a-t-elle dit. J'en passe et des meilleurs, en quelque sorte. Mais peut-être faut-il aller encore plus loin. Je me souviens d'un article de Christopher Caldwell, paru dans Le Monde au mois de novembre, où il dit que, jusqu'à une date récente, les Républicains, c'était la droite conservatrice en matière de mœurs et ultra-libérale en matière économique. Les démocrates, parti du big government, avaient la faveur de la classe ouvrière, des minorités qui bénéficiaient de la discrimination positive et bien sûr des intellectuels. Et c'est la mondialisation qui a tout changé, puisque l'Amérique s'est désindustrialisée, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont connu un essor formidable. Et le fossé s'est creusé, comme l'a dit Thomas Friedman, journaliste au New York Times, entre les web people, les gens d'Internet, les globaux, les planétaires, les connectés, et les wall people, les locaux, les autochtones, ceux qui ont besoin de frontières. Et le Parti démocrate représente aujourd'hui les premiers, donc les gagnants, en quelque sorte, de mondialisation. Et il me semble que les républicains qui, avant Trump, basaient leur programme exclusivement sur la baisse des impôts, sont devenus avec lui le parti des seconds, le parti des cols bleus, le parti des perdants de la mondialisation, le parti de la colère, de la révolte américaine. Il me semble que c'est cela aussi qui explique son succès et l'échec, disons, d'Hillary Clinton. Mais je voudrais en venir, justement, parce que cet échec est relatif, André Gaspi. Vous l'avez dit vous-même, elle a gagné le vote populaire avec 2 millions de voix de plus que Donald Trump. Alors, 2 millions en France, c'est énorme. Aux États-Unis, c'est moins important. Mais c'est quand même quelque chose. Oui. Ce n'est pas rien. En plus, on a appris que la Russie était elle-même intervenue dans la campagne par des cyberattaques. Donc, tout cela donne une impression un peu étrange. Alors, première question, qu'en est-il de ce système américain? Pourquoi l'Amérique a-t-elle choisi la démocratie indirecte? On vote dans chacun des États pour des grands électeurs. Et comment ça marche? Et y a-t-il en Amérique une remise en question de ce système pour en venir à celui qui régit toutes les autres démocraties occidentales? André
Gaspi.
Pour
répondre à votre dernière question, il y a une remise en question qui est permanente, mais je peux vous assurer, à moins que Laure Mandeville me démente, que le système ne sera pas remis en question. Pour une bonne raison, c'est que les États-Unis, c'est un système fédéral. C'est-à-dire qu'il ne faut pas comparer les États-Unis et la France. Dans ce système fédéral, chaque État tient à avoir sa part dans la désignation du président. Prenons par exemple le cas de la Californie. En Californie, il y a 55 grands électeurs sur un total de 538 pour l'ensemble de la nation. Très bien, c'est l'État le plus peuplé, c'est tout à fait normal que la Californie dispose de 55 grands électeurs. Le Wyoming a une population qui est à peu près équivalente à celle de Toulouse. Le Wyoming a 3 grands électeurs. Autrement dit, si on supprimait ce système américain pour notre système, parce que nous pensons bien évidemment que nous avons le meilleur système du monde, mais si l'on le remplaçait par le système français, les candidats n'auraient aucune raison d'aller dans le Wyoming. Ils iraient tous en Californie, ils iraient à New York, ils iraient dans la Pennsylvanie, mais le Wyoming, le Montana, tous ces petits États ne jouerait aucun rôle. Par conséquent, il est tout à fait normal que dans un système fédéral, on pratique cette politique-là. J'ajouterais que en 1787, il y a bien longtemps, lorsque la Convention de Philadelphie a élaboré la Constitution des États-Unis, elle avait le choix entre deux solutions pour élire le président. Soit le suffrage universel, elle n'en voulait pas, bien sûr, d'abord parce qu'il n'était pas universel, et puis ensuite parce que ça voulait dire que tout le monde allait choisir. Soit la désignation par le Congrès, ce qui aurait été encore un peu le système de la 4e République. Finalement, elle a choisi un système intermédiaire. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a aucune chance que le système change. Je voudrais simplement ajouter une chose, si vous me le permettez. C'est qu'il y a quand même un aspect de cette élection qui a de quoi nous surprendre. Donald Trump a 70 ans. Hillary Clinton a 69 ans. Bernie Sanders, l'homme des jeunes, à 74 ans, c'est quand même extraordinaire aux États-Unis de voir que ce sont des personnes qui sont des septuagénaires qui représentent l'avenir. Alors que traditionnellement aux États-Unis, on élit des présidents relativement jeunes. John Kennedy avait 43 ans, George Bush n'avait pas 50 ans, et Barack Obama non plus d'ailleurs. Autrement dit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui exprime le changement, et je crois que c'est le changement là qu'il faut pointer, et non pas dans le système de l'élection présidentielle.
Laure Mandeville.
Oui, je suis absolument d'accord avec André Gaspi, et je parle d'ailleurs sous son contrôle sur ces questions électorales que je connais bien moins bien que lui. Mais moi, ce qui m'a frappé depuis que je suis arrivée aux États-Unis il y a 8 ans, c'est que, au fond, les pères fondateurs et les gens qui ont imaginé le système américain ont fait en sorte que personne ne puisse complètement prendre le dessus sur l'autre partie dans ce système. C'est vrai entre les différents pouvoirs, donc le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, qui finalement la puissance incroyable du Congrès qui est là pour verrouiller finalement ce président que les États au départ ne voulaient pas vraiment, puisque l'obsession des Américains c'était qu'il ne puisse pas y avoir de monarque et qu'on revienne pas à ce qui s'était passé avec l'Empire britannique. Et la question est effectivement du pouvoir fédéral et du rapport entre les États et le pouvoir fédéral qui est absolument fondamental pour comprendre les États-Unis. C'est aussi ce souci permanent d'empêcher que certains certains États puissent prendre le dessus sur les autres. C'est pour ça d'ailleurs qu'aucun des États n'a voulu qu'un autre État, par exemple, ait la capitale fédérale chez lui, et qu'on s'est retrouvé avec ce fameux district de Columbia. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est effectivement le collège des électeurs, ce qui permet de garantir qu'une partie énorme des États-Unis, qui n'est pas les côtes, cette Amérique du centre, mais qui est quand même extrêmement étendue, très importante, puisse exprimer sa vision des choses. Et c'est vrai que les États-Unis sont un pays profondément divisé. En réalité, ça c'est l'autre réalité, moi, à laquelle je me suis heurtée. Vous avez vraiment une Amérique libérale des côtes, peuplée, et qui, d'une certaine manière, s'est exprimée dans le vote populaire dont vous parliez, mais une Amérique plus traditionnelle, plus conservatrice, plus aussi anti-politiquement correcte, qui ne se reconnaît pas dans le discours de la presse et dans leur volonté de délégitimation de cette élection. Et je crois que c'est d'ailleurs un des problèmes auxquels nous avons affaire aujourd'hui. C'est-à-dire que, au-delà de la personnalité de Trump, nous avons un face-à-face entre deux Amériques qui, d'une certaine manière, sont en train de s'éloigner et ne veulent même plus vraiment s'écouter. Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai écrit ce livre, c'est que j'avais parfois le sentiment dans situation presque schizophrénique, où vous alliez voir l'Amérique profonde dans les meetings de Trump, qui parfois effectivement s'énervait de certaines de ses injures et disait il ferait bien de fermer sa grande gueule, mais en même temps lui faisait gré de parler de ce qui était pour eux des vérités fondamentales, la frontière, la fin de l'immigration illégale, la protection, l'anti-globalisation, et de l'autre côté une autre Amérique qui, elle, rejette Trump profondément, massivement et de manière très virulente.
Mais André Caspi, vous venez de dire en effet que les candidats étaient très âgés, c'est un homme de 70 ans qui vient d'être élu, ce qui rompt avec...
Je n'ai pas dit très âgé, j'ai
oui,
dit
assez âgé, enfin plus âgé que la moyenne des présidents américains, dont on pouvait même souvent célébrer la jeunesse, puisque c'est un pays tourné vers l'avenir. Mais justement, il y a aujourd'hui une nouvelle sensibilité dans l'Occident tout entier, notamment aux États-Unis, face à la mondialisation, face aux flux migratoires, l'aspiration de notre civilisation à demeurer elle-même, non pas à épouser le changement, mais à demeurer elle-même, à persister dans son être. Il me semble que ce qu'on appelle le populisme, un peu partout, c'est la manifestation de ce grand désir. Mais ce désir, je le comprends très bien, mais en même temps, je suis surpris et catastrophé même que ce soit un personnage comme Trump qui l'incarne. Puisque précisément, en guise de civilisation, en guise de culture, c'est, d'après tout ce que je lis, un monument d'ignorance et de mauvais goût. Alors on se dit, bah oui, il faut peut-être sauver la civilisation occidentale, mais que reste-t-il de cette civilisation dans le personnage de Trump ? Voilà un peu ma perplexité devant ce vote. Je comprends la colère, je suis désolé de voir le type d'incarnation qu'elle a pu prendre.
Oui, moi je pense que les propos exorbitants de Trump font partie de la campagne électorale. C'est-à-dire que plus ils sont exorbitants et plus la presse les reprend. Les reprend pour les condamner, mais en même temps pour les faire connaître. C'est-à-dire qu'au fond, ça correspond précisément à ce que souhaite une grande partie de la population américaine. C'est-à-dire que elle en a assez de Wall Street, même si on peut dire quand même que Donald Trump puise à Wall Street pour choisir ses principaux conseillers. Elle en a assez de ses journaux de la côte atlantique ou de la côte pacifique. Il faut pas oublier que 200 journaux américains ont finalement pris parti pour Hillary Clinton, 6 seulement pour Donald Trump. C'est-à-dire que là, la proportion est énorme. Et si vous lisez régulièrement le New York Times, vous voyez que depuis des semaines et des semaines, il y a chaque jour un article sur Donald Trump, même encore aujourd'hui d'ailleurs, et pour dénoncer tout ce qui est insupportable chez Donald Trump. Mais plus c'est insupportable du côté du New York Times, et plus c'est accepté du côté de ceux qui considèrent que le New York Times, c'est l'expression de la côte atlantique, c'est l'expression de ceux qui pensent bien, c'est l'expression de ceux qui sont ouverts sur le monde, mais qui n'ont pas, sans doute, une véritable conception du patriotisme américain. C'est-à-dire qu'au fond, le patriotisme américain, ça existe. Ça n'est pas une invention. Et ce patriotisme américain, il est particulièrement fort, il est exprimé par Donald Trump. Alors évidemment, on peut dire qu'il ne connaît pas grand-chose, mais c'est évidemment l'une de ses faiblesses majeures. Et on peut dire qu'il s'entoure mal. Bon, peut-être, on n'en sait rien, faut voir à l'ouvrage. Mais en tout état de cause, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il exprime quelque chose qui provient des foules américaines, et c'est cela qui explique son succès. Donc je crois qu'il ne faut pas être catastrophé par l'élection de Donald Trump, il faut essayer de voir ce qu'il va faire, et ne pas oublier qu'il y a un mot qui convient le mieux pour désigner son action, c'est un pragmatique. C'est-à-dire c'est un homme qui n'a pas de doctrine. D'abord, sa doctrine, s'il en avait une, elle est tout à fait contraire à celle du Parti républicain, sur le protectionnisme, oui, par exemple. Donc ça veut dire que c'est un homme qui est pragmatique, donc voyons-le à l'œuvre, jugeons-le sur ce qu'il fait, et puis après, on pourra décider si c'est ou non un grand président.
Jean Mandeville,
oui, question à poser. Venant de vous, Alain Finkielkraut, je comprends très bien votre horreur face à un personnage qui manque d'un grand raffinement. Mais en même temps, c'est vrai que Donald Trump, il faut bien comprendre que les gens qui l'ont élu n'ont jamais pris Donald Trump de manière littérale. Et en fait, c'est ça qui différencie leur point de vue du point de vue des élites. C'est-à-dire qu'au fond, eux, ils sont passés par-dessus. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand ils disaient des choses qui leur paraissaient à eux aussi énormes, ils ne les voyaient pas, parce que pour eux, Donald Trump était porteur d'une vérité plus fondamentale qu'ils attendaient. La question de la protection, vous parliez de cette époque anti-globalisation, de cette rébellion, c'est la question de la protection. Et aujourd'hui, les Américains ont vu en ce personnage indomptable, explosif, capable de s'opposer à tout le monde et qu'il faut quand même a eu un mérite incroyable, c'est qu'il a gagné contre tout le monde. Il faut quand même avoir une sacrée personnalité pour ça. Et ils se sont dit, si cet homme est capable de s'opposer et de tenir face à ce qui s'est abattu sur lui, c'est-à-dire une véritable volonté des élites, quelle qu'elle soit, de l'abattre, ça veut dire qu'il sera capable de nous protéger. Donc ça, c'est très intéressant. Et je dirais aussi qu'il faut voir que Trump, oui, il n'a pas lu tous les livres. Certes, il n'en a sans doute même pas lu un seul.
Oui, c'est ce que dit celui qui a écrit pour lui son livre le plus célèbre, The Art of the Deal, Tony Schwartz.
Tony Schwartz, exactement.
Niveau de superficialité et d'ignorance stupéfiant.
Oui, mais ils sont fâchés entre eux.
Mais en même temps, ils sont fâchés, exactement. Et donc il faut se méfier, il est démocrate, donateur du Parti démocrate, il se réveille quand même très tard. Mais surtout, oui, Trump n'a pas lu, mais il a quand même lu le livre de la vie. C'est-à-dire que je pense que le sous-estimer comme on l'a fait, c'est une grave erreur. C'est quelqu'un qui a des instincts, qui a passé des années à se battre dans le marécage de New York, qui connaît la vie, qui s'est affronté à des personnages extrêmement durs, qui a une capacité, une psychologie, par exemple, de ses interlocuteurs incroyable. Donc c'est aussi quelqu'un qui amène avec lui une expérience et aussi une capacité. Il a quand même construit un empire absolument gigantesque. C'est un homme aussi qui défend le principe de réalité. Et disons-le, les Américains ont eu Obama avant. Un homme qui était sophistiqué, qui était comme vous, comme nous, nous l'aimions tous. Magnifique, faisant de beaux discours, capable de vous démontrer le pour et le contre. Mais même trop, justement. Moi, je me souviens de ces conférences de presse d'Obama, absolument exaspérantes, où Obama, quand on lui posait une question, se mettait à la place, faisait le pour et le contre comme un journaliste ou comme un philosophe, à se demander ce que allait penser l'adversaire et ce qu'allaient penser ses partenaires. Et finalement, au bout du compte, mettait tout sur la place publique. Trump, lui, ne met pas grand-chose sur la place publique, il ne donne pas grand-chose de ses intentions, mais il ménage l'esprit de l'effet de surprise. Donc, il y a un rejet, en tout cas, de cette sophistication de la gauche libérale que, en fait, une grande partie de la population a voulu rejeter.
Alors, puisque vous êtes tous deux à des degrés divers, effectivement avec une certaine lucidité, un peu les avocats du diable, je m'en ferai encore le procureur, parce que ce qu'on connaît de Trump, outre son magnifique succès dans l'immobilier, c'est une mission de télé-réalité dont vous parlez, dans votre livre, Laure Mandeville, The Apprentice, où on voit 16 jeunes entrepreneurs américains, 8 hommes et 8 femmes, et le gagnant, eh bien, se verra offrir une place de président dans l'une des compagnies de l'empire Trump, avec un salaire énorme. Et Trump était le grand animateur de ce jeu et il prenait un certain plaisir à dire à celui qui avait échoué « Vous êtes viré, le condamné en quelque sorte ». Donc c'est quand même une version tout à fait caricaturale et à mes yeux inquiétante du rêve américain, premièrement. Deuxièmement, on sait quelque chose des intentions de Trump. Il nie l'origine humaine du dérèglement climatique. Il a dit qu'il souhaitait développer les énergies fossiles en levant le moratoire sur l'exploitation des mines de charbon et advienne que pourra. Donc ça, quand même, on a des raisons légitimes de s'inquiéter. Et en matière de politique étrangère, un tout petit fait, mais moi qui me touche, c'est la nomination récente du nouvel ambassadeur américain en Israël, David Friedman. Il finance les implantations en Cisjordanie et il est hostile à la création d'un État palestinien. C'est, me semble-t-il, une mauvaise nouvelle pour les Palestiniens, mais aussi une mauvaise nouvelle pour les Israéliens, empêtrés depuis bientôt 50 ans dans une colonisation qui dénature peu à peu le projet sioniste. Donc tout cela, quand même, montre des intentions dont on ne peut pas dire qu'elles puissent inciter à l'optimisme. Et encore une fois, sur le réchauffement climatique, ça me rappelle une citation de Daniel Monihan, un célèbre homme politique américain. « Tout le monde a le droit d'avoir ses propres opinions, mais pas ses propres faits. » Il semblerait que Trump ait ses propres faits et qu'en vertu de sa vision complotiste de l'histoire, il va agir politiquement. Voilà pourquoi je ne dirais pas que c'est l'apocalypse, mais enfin, je n'ai aucune raison d'avoir confiance, personnellement. André Caspi.
Oh, écoutez, d'abord, vous m'attribuez avec Laure Mandeville le titre d'avocat du diable.
L'avocat lucide. L'avocat.
Oui, alors écoutez, je ne me sens pas l'avocat de Donald Trump. Moi, je suis un observateur étranger en plus. Je ne vote pas aux États-Unis. Je partage en partie, d'ailleurs, vos craintes. Alors, il est évident que si on examine, par exemple, la politique étrangère de Barack Obama, on pourrait aussi trouver bien des aspects négatifs.
Ah oui, absolument.
Je crois que la question qui se pose, c'est de voir comment les choses vont se passer d'une manière très précise. Bon, alors, vous évoquez la nomination, qui n'est pas encore tout à fait faite d'ailleurs, de David Friedman comme ambassadeur en Israël. Oui, c'est une nomination qui est inquiétante, qui est regrettable même par certains côtés, parce que ne fût-ce que le transfert de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem va certainement nuire beaucoup au prestige des États-Unis dans cette région. Mais d'un autre côté, qui est-ce qui a nui le plus au prestige des États-Unis dans la région? C'est Barack Obama. C'est-à-dire que depuis 2013, il a refusé, comme on sait, d'intervenir en Syrie. Par conséquent, aujourd'hui, les États-Unis sont complètement absents de ce problème, ce qui veut donc dire que peut-être Donald Trump a-t-il fait une erreur, mais certainement Barack Obama a commis des erreurs. Donc je crois que pour l'instant, il faut attendre, on ne peut pas décider comme cela. Mais je voudrais simplement ajouter un point, c'est que au fond, Donald Trump a un gros avantage pour beaucoup d'Américains, c'est qu'il est riche. Alors évidemment, ça peut nous paraître étonnant, étant donné que nous avons des hommes politiques qui nous ont dit qu'ils n'aimaient pas les riches. Mais aux États-Unis, on aime les riches. Ça veut dire qu'au fond, il a réussi. Alors, il n'a pas démarré de rien, parce que son papa lui a quand même facilité les choses. Mais comme l'a rappelé tout à l'heure Laure Mandeville, il a quand même accédé à une richesse qui n'était pas celle de son père. Ça veut donc dire que pour les Américains, c'est un homme qui a réussi. Il a incarné le rêve américain. J'insiste bien là-dessus. Il a incarné le rêve américain. Et je vais vous en donner même un exemple très précis. C'est-à-dire que dans la campagne électorale, et les campagnes présidentielles coûtent très cher aux États-Unis, elles coûtent de plus en plus cher, eh bien dans cette campagne électorale, Donald Trump a dépensé moins qu'Hillary Clinton. Et pourquoi a-t-il dépensé moins? Parce qu'il a utilisé d'abord en partie sa propre fortune personnelle, dans les primaires en tout cas, et puis ensuite parce qu'il avait moins besoin, en somme, de faire de la publicité négative à la télévision, d'insister sur tel ou tel aspect par l'intermédiaire de ses communicants. Il communiquait lui-même. C'est-à-dire qu'au fond, c'est l'homme de la communication. Vous avez cité son émission de télé-réalité. Bon, moi j'ai jamais vu cette émission et certainement c'est pas ça, l'émission que je regarderais le plus facilement. Il n'empêche que cette émission a réuni des millions de téléspectateurs. C'est-à-dire qu'elle a satisfait aux besoins de ces téléspectateurs de voir quelqu'un qui va donner sa chance au meilleur. Et tant pis pour ceux qui sont fired, tant pis pour ceux qui sont virés. Ben, ça aussi, c'est le rêve américain. Et je crois que de ce point de vue-là, sans être l'avocat de Donald Trump, on peut quand même souligner cet aspect positif qui explique son succès, mais qui en même temps suscite des inquiétudes sur lesquelles, d'ailleurs, j'aurais tort de ne pas insister.
Oui, ben, écoutez, moi, j'ai exactement le même sentiment. C'est-à-dire, je pense que quand on dit que Donald Trump n'est pas le diable ou n'est pas Hitler, ce que je fais dans mon livre, et qu'on essaie de nommer véritablement à qui on a affaire, on n'est pas nécessairement son avocat, on essaie de comprendre. Et c'est pour ça que, effectivement, vous avez raison de poser cette question-là. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit « mais tu es pro-Trump », alors que je vous ai dit « mais vous n'avez pas lu mon livre ». Moi, j'essaie de comprendre qui est cet homme, pas de l'accabler. Et donc, quand vous dites que, sur l'apprentice, la fameuse émission, The Apprentice, l'apprenti, son émission de télé-réalité, je pense comme André Caspi, c'est-à-dire que Donald Trump, cette émission que j'ai vue, et qui est assez drôle d'ailleurs, et qui est très bien faite et très amusante, pour moi, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est inquiétant, c'est effectivement la définition du rêve américain. Trump, en fait, rappelle, et c'est ça qui a plu aux gens, c'est qu'on ne leur raconte plus des histoires, on leur dit, on leur donne un principe de réalité. Cette émission, c'est pour ça qu'elle a marché, parce que justement, il y a des gagnants et il y a des perdants. Et aujourd'hui, les gens ne veulent plus entendre le discours d'Obama, qui était un discours de réconciliation de tout le monde, qu'il y allait avoir que du win-win, comme on dit, des gagnants-gagnants au 21e siècle. Je crois que finalement, il y a une fin aux États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis, d'un discours plus réaliste et de l'idée que quand Trump dit « je ne vais pas changer le monde, je vais protéger mon monde,
mais
notre
oui,
monde, il est soutenu. »
Mais quel monde protège-t-il ?
Oui, alors quel monde protège-t-il ? Oui. Et justement, le monde capitaliste, en fait, quand Tocqueville dit la deuxième valeur la plus partagée par les Américains, c'est l'argent, Donald Trump, c'est ça qu'il dit. Il dit, il faut travailler, il faut que vous soyez les meilleurs, et c'est pour ça que cette émission a marché. Et d'ailleurs, cette émission a joué probablement un rôle immense pour le promouvoir, parce que il était dans les foyers de 30 millions d'Américains, vous imaginez. Donc, c'était un familier des Américains. Sur le dérèglement climatique, je suis complètement d'accord avec vous, qu'il y a une vraie question. Mais bon, il n'est pas le seul. Et moi, mon espoir, c'est qu'en réalité, Donald Trump est quand même dans le cadre d'un système. Il est inséré dans une société qui est vibrante, où il y a plein de contre-pouvoirs. Il y a des gens qui vont le voir comme Bill Gates, et qui sont extrêmement engagés dans ces questions de dérèglement climatique et qui sont en train de parler avec lui. Je crois qu'il y a des tas de gens qui vont essayer de le faire changer d'avis. Et d'ailleurs, il a déjà dit qu'il était en train de changer d'avis et que c'était peut-être très différent et qu'il voulait protéger, qu'il y ait un air pur, etc., etc. Et sur la question d'Israël, je pense qu'il faut attendre. C'est vrai que le signal envoyé est un signal quand même, comme vous l'avez dit, qui pose de grosses questions. En même temps, moi, ce qui m'a beaucoup frappé pendant cette campagne, c'est qu'au début, pendant la primaire, le premier instinct de Trump était un instinct beaucoup plus modéré. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant la primaire, au premier débat, Trump est le seul des candidats républicains qui dit « si nous voulons un jour régler le problème israélo-palestinien, je dois me mettre dans une position de neutralité ». Il prononce cette phrase, ça fait un tollé dans la droite américaine. Son beau-fils, qui comme vous le savez, est un juif orthodoxe, assez proche des milieux de l'EPAC, lui dit « Donald,
c'est le lobby,
pro-israélien,
très pro-israélien,
très pro-israélien,
pro-Netanyahou, en fait,
et pro-Netanyahou, exactement. » Il lui dit « cher daddy, il va falloir changer ton discours parce que sinon tu vas avoir un gros problème. » Et on voit donc Donald Trump évoluer et se rendre à l'EPAC pour prononcer un discours très engagé en disant « Israël, je défendrai Israël, ça sera ma priorité stratégique, etc. » Mais plusieurs fois depuis, il a donné des signes montrant que les choses ne seraient peut-être pas si claires. Et j'ai bien vu que pendant la transition, il y a eu aussi un communiqué de la campagne Trump qui disait à la droite israélienne de ne pas trop se lancer dans des grandes déclarations comme si demain tout allait se passer exactement selon leurs vœux. Donc moi, je resterai très prudente. Et de manière générale, je pense que nous devons aborder la période actuelle avec beaucoup d'humilité et de prudence. Car en fait, nous ne savons rien des intentions de Trump. Et pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de système. Il a des instincts. Et là, on peut les lire et on peut en parler. Des instincts en politique étrangère de Trump, le réalisme, comme l'a dit André Caspi, le pragmatisme et l'effet de surprise. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va tenter des choses et qui, si elles ne marchent pas, pourra changer d'avis. Donc, je pense qu'il y a marge pour une grosse incertitude, des grosses inquiétudes aussi, l'OTAN, la Russie, mais aussi, comme l'a dit Henry Kissinger, peut-être une formidable fenêtre d'opportunité.
Vous me permettez deux précisions. C'est en ce qui concerne le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. D'abord, c'est le Congrès qui a voté ce transfert en 1995. Et Bill Clinton a soutenu cette idée-là. Il ne l'a pas appliquée, mais il l'a soutenue. C'est-à-dire qu'au fond, tous les présidents depuis Bill Clinton jusqu'à Barack Obama, en passant par George Bush, on dit dans la campagne qu'il souhaitait le transfert, sans le faire. Et deuxièmement, en ce qui concerne les industries, les énergies fossiles, lorsque Donald Trump s'est trouvé en Virginie occidentale, c'est-à-dire dans un endroit où les mines de charbon ont été fermées parce que on ne veut plus du charbon, il avait devant lui des milliers de chômeurs. C'est à ce moment-là qu'il a dit, oui, il faut rouvrir les mines de charbon. Et il l'a dit dans une perspective électoraliste, parce que au même moment, Hillary Clinton soutenait l'idée qu'il ne fallait pas rouvrir les mines de charbon. Donc je crois qu'il ne faut pas se contenter d'appréciation générale sur ce qu'il dit. Il faut voir dans quel contexte il le dit, et il faut voir aussi à qui il s'adresse lorsqu'il le dit.
Alors, un dernier mot sur Israël. C'est pas tellement le transfert de l'ambassade à Jérusalem qui peut susciter l'inquiétude, en tout cas pas la mienne, mais c'est plutôt le signal, l'encouragement donné avec cette nomination à la droite israélienne la plus dure, alors même que le pays est très divisé, si vous voulez.
Oui, donc, vous savez mieux que moi qu'en Israël, on n'attend qu'une chose, c'est que Barack Obama s'en aille.
Oui, ça c'est vrai aussi.
Bon, Barack Obama s'en va, on verra la suite.
Hein. On verra la suite.
Et cela dit, comme l'a rappelé Laure, il est évident que aucun candidat à la présidence des États-Unis ne peut se permettre de dire « je suis contre Israël, je souhaite l'équilibre entre Israël et les Palestiniens ». Et quand Trump l'a dit, ça a provoqué les réactions qui vous ont été rappelées. C'est-à-dire qu'au fond, il y a là, malgré tout, un consensus à l'égard d'Israël, le meilleur allié des États-Unis, comme chacun sait.
Je voudrais poursuivre l'interrogation maintenant, en lui donnant une dimension historique. Parce que Trump a l'air d'un ovni, mais peut-être y a-t-il des précédents dans l'histoire américaine. Et dans votre livre, vous rappelez l'existence du populisme jacksonien, Laure Mandeville. Alors, qui était ce Jackson et quel rapport avec Donald Trump?
Oui, il faudrait plutôt poser la question à André Caspi qui vient de faire
un livre. Justement, vous pourrez en parler tous les deux.
De Jackson, c'est vrai que c'est un personnage très intéressant qui avait une expérience politique. Je le relisais justement dans votre livre, André Caspi, qui surgit du Tennessee, c'est bien ça, et est un homme qui fait sa gloire finalement pendant la guerre, puisque c'est un général et qui s'est battu, mais il est aussi un politique et finalement. Il se présente sur des positions anti-système. Il veut rétablir le contact avec le peuple contre cette espèce de superstructure, on dirait aujourd'hui, et contre les élites qui, à l'époque, ont d'une certaine manière confisqué aussi par le système électoral le choix politique. Et en fait, Andrew Jackson va être notamment un des hommes qui va permettre le développement du suffrage direct dans les États pour élire le président, ce qui est très intéressant. Mais c'est surtout une révolte anti-élitiste. Et donc les Jacksoniens, finalement, ce sont des gens qui sont un peu égalitaristes, d'où le parallèle, me semble-t-il, avec la rébellion venue du cœur industriel du Midwest, où je me suis baladée pendant la campagne. Ces États qui ont élu Donald Trump, l'Ohio, le Michigan, la Pennsylvanie. Et donc ce sont des gens qui sont à la fois profondément patriotes Et ça, c'est aussi un élément commun, le patriotisme, le retour du patriotisme qu'on voit aujourd'hui, et l'idée qu'il n'y a pas de complexe à avoir quand Trump dit « notre pays, il faut défendre nos valeurs, notre pays est formidable », etc. Ça, ça parle au cœur, effectivement, de toute cette Amérique jacksonienne qui traverse la tradition américaine, qu'on l'appelle Scott-Irish, en fait, parce qu'il y a tout un courant écossais-irlandais, en fait, qui a été le fond, disons, et presque ethnique, en fait, de cette population. Donc, j'ai trouvé que c'était absolument fascinant que ce parallèle ait survécu. Et donc aussi une manière de dire les choses de manière directe, pas selon le langage de l'élite.
André Gaspi.
En tant qu'historien, j'ai quelques réticences dans les comparaisons entre des périodes très différentes, parce que Jackson a été président des États-Unis de 1829 à 1837. C'est-à-dire qu'au fond, les États-Unis de cette époque, tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'ils ne correspondent pas exactement aux États-Unis d'aujourd'hui. Alors, en effet, il y a chez Jackson d'abord une révolte contre le système, parce que en 1824, il aurait dû être président des États-Unis, mais par les détours du système électoral, c'est la Chambre des représentants qui a désigné quelqu'un d'autre. Bon, passons là-dessus. Mais surtout, il est célèbre parce que quand il est entré à la Maison-Blanche en 1829, ses partisans l'ont suivi, ont marché sur les fauteuils et les canapés de la Maison-Blanche, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas respecté ce lieu sacré de la politique américaine. Bon, cela dit, Jackson n'a pas été non plus un président sensationnel, hein. C'est quand même lui qui a chassé les Indiens dans l'ouest des États-Unis. C'était un général très brutal, mais qui avait une grande spécialité, c'était les duels au revolver. Donc, alors si on aime ça, moi je veux bien.
Mais Trump aime peut-être ça.
Alors peut-être. Non, toujours est-il que je crois que il n'y a pas véritablement d'antécédent pour Donald Trump, pour la bonne raison que je mentionnais tout à l'heure, c'est que c'est la première fois quand même qu'un président n'a exercé aucune fonction politique. Alors on peut me citer Eisenhower, mais Eisenhower, lorsqu'il a été élu président, c'était l'ancien commandant en chef des forces alliées en Europe occidentale. Donc il avait quand même, sans avoir une formation politique, il avait quand même la formation du commandement. Tandis que Trump, lui, n'a aucune expérience politique, mais cela fait déjà quelques années qu'il nourrit l'ambition politique. C'est-à-dire que déjà dans les années 90, il avait manifesté son désir de faire quelque chose, peut-être d'être candidat, et puis par la suite, ça ne l'a pas quitté. Reste une question, et une question que je pose à titre personnel. Un homme qui a si bien réussi dans les affaires, pourquoi veut-il s'embêter à devenir président des États-Unis ? Alors évidemment, Lord Manville va me répondre, c'est parce qu'il est narcissique. Peut-être, mais c'est quand même extraordinaire, parce que il a tout réussi dans les affaires. Enfin, il a eu beaucoup de faillites, mais la faillite, même aux États-Unis, est considérée comme une chose agréable, si du moins on s'en sort. Donc il a tout réussi, et voilà qu'il se jette dans cette espèce de gouffre qui consiste à gérer les affaires des États-Unis, la plus grande puissance mondiale, de s'intégrer dans des affaires mondiales qui, elles, sont extrêmement compliquées. Pourquoi ne se contente-t-il pas de ce qu'il est ? Eh ben voilà, c'est le personnage. C'est-à-dire qu'au fond, il veut toujours tout, toujours plus.
Oui, toujours c'est plus.
Toujours plus.
Toujours voilà. Plus. C'est-à-dire, il dit d'un côté, il faut des frontières et des limites, et il y a chez lui quelque chose de
sky is
the limit, quelque chose d'illimité. Il incarne une certaine forme d'oubris, de démesure. Et Tony Schwartz parle, encore une fois, de son manque total d'intérêt pour toute autre chose que le pouvoir et l'argent. S'il pouvait se présenter au poste d'empereur du monde, il le ferait, dit-il. Alors en effet, son témoignage est à prendre avec quelques précautions, mais bon, voilà un peu ce qui caractérise le personnage, Lord Manville.
Oui, puisque vous posez cette question, pourquoi il fait ça alors qu'il a tout réussi ? Et d'ailleurs, il pose rhétoriquement cette question dans beaucoup de ses meetings. Pourquoi je m'embête à faire tout ça ? C'est tellement dur, c'est tellement méchant, c'est tellement dégueulasse, une campagne comme ça, ça va tellement loin. Il parlait de lui, mais aussi de l'autre camp, et donc c'est vrai que la question se pose. Il me semble qu'il y a deux éléments. Il y a l'élément qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire, c'est vrai, c'est l'hubris. C'est un personnage qui n'a jamais assez, c'est-à-dire qu'il y a chez lui une volonté de toujours plus, une sorte de, je dirais, de montée verticale, où il faut aller toujours plus loin, essayer toujours plus de choses, combler finalement son besoin de puissance. Mais il me semble qu'il y a autre chose qui est sous-estimée, c'est sa préoccupation. C'est-à-dire que malgré tout, Trump n'est pas différent d'un autre homme. C'est-à-dire qu'il a une préoccupation civique, peut-être. Alors vous direz, comment Trump, mais il aime que lui-même, que le pouvoir. Moi, je n'en suis pas persuadée. Je vois Trump comme un nationaliste, au fond un patriote, quelqu'un qui est préoccupé par ce qui se passe dans son pays. Et je pense d'ailleurs que s'il n'y avait pas une certaine authenticité dans cette idée que peut-être il peut rendre à l'Amérique ce qu'elle lui a donné, cette idée que to give back, qui est tellement américaine, où moi j'ai réussi, moi j'ai grandi, peut-être que je peux rendre quelque chose. Je pense qu'il y a aussi une démarche, je dirais, oui, citoyenne, peut-être. Si, c'est-à-dire que l'idée que le pays va très mal, il faut qu'on fasse quelque chose.
Oui, alors en même temps, on compare le mouvement qui a porté Trump au pouvoir à certains mouvements populistes en Europe, mais il me semble, pour finir, qu'il y a quelque chose de spécifiquement américain dans sa démarche, c'est-à-dire révolte contre le système d'un côté, et de l'autre côté, où c'est l'autre face de la médaille, affirmation que le seul critère de réussite, c'est l'argent. On se révolte contre le système et on dit que le seul critère de la réussite, c'est l'argent. Là, je ne suis pas sûr qu'on ait tout à fait les équivalents en Europe. André Caspi.
Je pense que, puisqu'on est en train de tresser des couronnes à Donald Trump, sans le vouloir, il faudrait ajouter un autre élément, c'est que, au fond, il a une famille. Alors, évidemment, il a divorcé deux fois, c'est sa troisième femme, mais il n'empêche qu'il donne beaucoup d'importance à ses enfants. Et je crois que là aussi, c'est une valeur proprement américaine, c'est-à-dire la valeur familiale. Et de ce point de vue-là, le fait qu'il donne à sa fille, à ses filles, qu'il donne à ses garçons la possibilité de jouer un rôle, je pense que ça a contribué aussi à sa propre popularité, c'est-à-dire au fond, c'est un père de famille. Alors, vous allez peut-être ne pas être d'accord avec moi, mais c'est une valeur qui n'est pas négligeable, en particulier lorsqu'on s'adresse au corps électoral.
Enfin, il a quand même épousé une poupée gonflable.
Oui, il en a même épousé deux, trois.
Donc trois.
Trois, okay. Successivement.
Hein. Un dernier mot peut-être, Laurent de Ville, rapidement.
Il y a chez Trump, pour continuer dans cette histoire des valeurs familiales, je crois qu'il y a, au fond, une des spécificités de Trump, c'est que c'est un homme des années 50 pour moi. C'est-à-dire que c'est un homme sur lequel la révolution des années 60 à glisser, et d'une certaine manière, il y a quelque chose, l'idée de quel monde allons-nous laisser à nos enfants, et donc un engagement de quelqu'un qui a quelque chose de traditionnel, tout en étant, c'est ça le paradoxe de ce personnage, c'est qu'il est à la fois new-yorkais, avec tout ce que ça implique de valeurs libérales, mais il est traditionnaliste, un peu, je dirais, une sorte de madman, comme dans la série télévisée, ces personnages à la fois très ambitieux, finalement aussi torturé, contradictoire. Voilà, donc je crois qu'on est face à un personnage complexe, en
mais
fait.
Pas très religieux.
Pas du tout religieux.
Ah, ça, c'est une, effectivement, ça, c'est une spécificité de Trump. Oui. Merci beaucoup, Laure Mandeville. Merci, André Caspi. Je rappelle, Laure Mandeville, le titre de votre livre, Qui est vraiment Donald Trump ? Il est publié conjointement par le Figaro et les éditions Équateur. André Caspi, vous avez écrit avec Hélène Arter, un livre sur les présidents américains de Washington à Obama chez Talendier, et il est publié aujourd'hui dans la collection Texto. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Histoire de couple ». Mes invités seront Michel Bauzon et Alexandre Postel. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Delphine Baudet. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet.